RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules, 11h02 sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Zoran Spasojevic, le restaurateur Donfleur en Normandie, qui est avec nous aujourd'hui, Jean-Loup Bonamy, prof de philo, et Sandrine Pégan, l'avocate. Tout à l'heure, on reviendra quand même sur ces incendies qui ravagent une partie de la Nouvelle-Aquitaine. Il y en a deux très importants, et surtout celui de Gironde, hein, qui menace la presqu'île du Cap Ferret. Il y a aussi un incendie dans les Landes, à Biscarros. Si vous avez été obligé d'évacuer cette nuit ou tôt ce matin la presqu'île, hein, ce qui est une obligation désormais, la préfecture a lancé un appel en ce sens. Appelez-nous au 3216, on va revenir avec vos témoignages pour finir l'émission tout à l'heure à 11h40. Et puis on parlera aussi des pourboires numériques qui se multiplient au moment de payer. Alors c'est vrai qu'il y a un petit caractère obligatoire, on te donne hop la machine, voilà, et puis tu te sens un peu obligé de.
Tips.
Et alors si tu dis non. Tu culpabilises parce que c'est le serveur qui te tend la machine.
Ah, puis tu vois bien
est-ce
sa
qu'on
tête,
nous force la main avec les pouvoirs numériques? On en parlera avec notre restaurateur, justement, tiens, et avec vous au 32-16. Mais avant cela, quand même, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour certains artistes juifs, c'est difficile de se produire en France. Après Barbara Bush, qui a été obligée d'annuler son concert à Grenoble, c'est désormais le chanteur franco-israélien Amir qui se trouve lui aussi obligé d'annuler son concert prévu à Marseille après des appels au boycott. L'artiste devait tenir un concert gratuit dans un grand centre commercial du centre-ville de Marseille ce dimanche, dans le cadre d'une série de spectacles gratuits tout au long de l'été. Mais des appels au boycott sur les réseaux sociaux ont poussé les organisateurs à renoncer au maintien de l'événement. C'est le collectif Union Palestine Marseille qui avait appelé au boycott. Alors ils disent qu'eux, ils sont très pacifiques. Enfin, ils sont très contents que finalement, Amir annule son concert. Ils disent que c'est une victoire de la mobilisation populaire. On se pose la question, est-ce qu'un artiste juif peut encore se produire dans ce pays? Le 32-16, qu'est-ce que tu en penses, Sandrine Pégan, toi l'avocate?
Moi, je trouve qu'on est dans une espèce de logique de veto. C'est plus la démocratie, ça, tu vois. Moi, je suis pour la liberté de création, je suis pour le pluralisme. C'est pas parce qu'aujourd'hui, t'as un auteur, un artiste qui a exprimé son opinion, qui a signé une tribune, qu'il ne devrait plus avoir le droit de monter sur scène. Le pluralisme, c'est ça, c'est que tu sois pas d'accord ou pas, ben, peu importe. Donc là, aujourd'hui, moi, je trouve que, bon, le concert était gratuit, hein, celui qui était censé donner. Mais peut-être que le refus, éventuellement, ça serait de se manifester par le non-achat du billet. Tu vois, pas à en arriver au boycott. Donc pour moi, je le répète, je trouve qu'on est dans une logique de veto et ça me pose un vrai problème.
Visiblement, qu'est-ce que tu en penses, Zoran?
Bon, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, mais là, visiblement, d'après ce que je lis, c'est pas vraiment une annulation due au fait qu'il soit juif. Hein.
C'est l'appel au boycott.
Il y a l'appel au boycott et puis il y a les problèmes d'organisation. Je pense que
c'est...
Comme par hasard, c'est lui qui signe.
Voilà, c'est ça.
Et c'est pas la première fois.
Et si on lit entre les lignes, on a compris. Hein.
Vous savez que Amir, depuis le 7 octobre, il est obligé d'avoir une sécurité privée.
Oui.
Parce qu'il est menacé. En plus, sincèrement, il s'est jamais engagé pour le gouvernement israélien. Il a plutôt des messages de paix, etc.
Oui, toujours, donc en plus, c'est ça. Il prône la paix.
Oui, donc en fait, il comprend même pas pourquoi il est devenu une cible, en fait.
Ouais. Mais là, je pense que c'est plus des problèmes d'organisation liés à la sécurité.
Ne sois pas naïf, Zoran.
Les organisateurs.
Zoran est naïf, il est encore un peu naïf.
Mais bon, après, le boycott.
Non, mais les organisateurs, ils ont peur. Donc, ils cèdent face à la pression. Ils se disent, s'il y a un problème de sécurité, nous, on doit assurer la sécurité. En plus, c'est dans un centre commercial. Et donc, en fait. C'est assez malin de la part de ceux qui appellent au boycott. Parce qu'ils disent, bah non, on n'a pas censuré.
Ouais.
Mais leur appel au boycott provoque provoque cela parce que ça crée une pression. Bon,
là il doit chanter à Vitrolles dans pas
longtemps.
Là on verra.
À Rognac, je crois, non, c'est pas Rognac, c'est Rognac. Oui.
Comme Barbara Bush qui doit chanter dans Lyon ce week-end, on verra si c'est possible parce qu'il y a eu des appels
au boycott. Là, si tu as une annulation.
Elle chante pas d'ailleurs, c'est plutôt une DJ donc elle chante pas. Jean-Loup Bonamy.
Alors moi j'ai deux choses à dire. La première c'est que je soutiens Amir qui je pense là est victime d'antisémitisme et je suis pour une France de la liberté d'expression totale, de la liberté de se produire, de la liberté artistique, de la liberté d'expression. Moi je le dis, je suis pour une France dans laquelle Amir peut se produire librement sans menace ni appel au boycott et dans laquelle Dieudonné peut faire légalement et librement tous les spectacles qu'il veut.
Dieudonné a été condamné.
Et je m'en fous complètement.
Bah, c'est la différence quand même entre les deux.
Il y a une différence, mais le fait qu'il ait été condamné ne doit pas l'empêcher d'exercer son métier. Donc moi, je suis pour une France de la liberté totale. Pour
Amir,
qui d'ailleurs n'a jamais fait de politique. Pour Dieudonné, qui a été condamné, mais je vois pas pourquoi ça devrait renier sur sa liberté d'expression.
C'est juste une remarque.
Voilà, je suis d'accord, mais je vois pas pourquoi on devrait l'empêcher. Donc moi, je suis pour la liberté de toutes et de tous, quelle que soit leur position, leurs origines, leurs convictions. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais faire une différence entre Amir et Barbara Blouch. Parce que Amir m'est beaucoup plus sympathique que Barbara Blouch. Barbara Blouch, elle a deux problèmes. La première, c'est qu'il y a à peine 2 ans, devant le monde entier, elle a fait une parodie christianophobe qui insultait la civilisation occidentale, qui insultait la religion chrétienne, qui se moquait du Christ.
C'était la scène, la parodie de la scène.
La parodie de
la scène.
Lors
de la cérémonie d'ouverture des JO de 2024.
Voilà. Et est-ce que tu sais qu'il y a 16 pays qui ont refusé de diffuser à nouveau en replay cette scène-là? Il y a 16 pays dans le monde qui ont refusé.
Elle a, sans raison, insulter la civilisation occidentale, l'histoire et la culture française, la religion chrétienne qui ne lui avait rien fait devant le monde entier. Donc écoute, c'est un peu difficile de venir de plainte quand toi-même, moi je n'ai pas envie de défendre Barbara Blouch qui a fait ça il y a 2 ans. C'est sa liberté, mais du coup je ne la soutiendrai pas. Et d'autre
part,
pas
à prendre des jets de projectiles.
Barbara Blouch, elle vient nous dire liberté d'expression.
Oui.
Très bien, je viens de dire que j'étais pour la liberté d'expression. Mais le problème, c'est que contrairement à Amir, qui, comme tu as dit, n'a jamais pris position pour le gouvernement israélien, a un message de paix très classique et qui me rend Amir plutôt sympathique, Barbara Blouch, elle a pris publiquement position pour la loi Yadan, qui est une loi scélérate, scandaleuse, qui vise à étouffer la liberté d'expression et à empêcher toute critique du gouvernement Netanyahou. Et donc, elle a pris parti pour ça. C'est un peu facile de venir dire « Oh, ma liberté d'expression, c'est important », alors quand toi-même tu soutiens le gouvernement Netanyahou et la loi Yadan qui vise à bâillonner les Français qui veulent critiquer ce gouvernement. Donc moi je dis, je soutiens Amir, je condamne l'antisémitisme dont Amir est victime, je suis pour qu'Amir puisse se produire librement sans soutien au boycott, le fait qu'il soit israélien n'est absolument pas un problème. Mais par contre, pour Barbara Blouch,
d'accord,
qui d'une part a insulté les chrétiens et qui d'autre part soutient la loi Yadan, qui est une loi scandaleuse, voilà,
Le 32-16 pour intervenir dans cette discussion, moi quand même ce qui m'insupporte, c'est qu'aujourd'hui quand même ceux qui sont ciblés, ce sont des artistes juifs, et quand même on a un problème avec ça, c'est-à-dire que dans ce pays, si on ne peut plus, parce qu'on est juif, se produire sur scène, c'est gravissime. Pardon, par rapport d'ailleurs à l'histoire de notre pays, hein, parce qu'on n'a pas quand même été particulièrement glorieux pendant la Seconde Guerre mondiale dans la façon de traiter les Juifs dans ce pays.
C'est l'un des taux de survie des Juifs les plus élevés dans les pays occupés. 75% des Juifs sauvés en France.
Je rappellerai quand même que c'est l'État français et des policiers malheureusement français qui ont encadré la rafle du Veldiv. Je crois qu'on a quand même nous une responsabilité en France d'assurer la liberté d'expression et notamment des Juifs. Une obligation morale. Là, ce qui m'énerve dans ces deux histoires, Barbara Blouch et Amir, c'est que ce sont les boycotteurs qui gagnent à chaque fois. Barbara Blouch a été obligée de renoncer parce qu'elle prenait des projectiles dans la figure. Et Amir, c'est les organisateurs qui annulent parce qu'ils se disent aïe aïe aïe, si ça déborde, après ça ne retombe dessus. Donc en fait, c'est les boycotteurs qui gagnent. Qui a des appels au boycott, pourquoi pas, il y en a toujours eu. Mais ils ne devraient pas avoir le mot de la fin. Et c'est eux qui ont le mot de la fin, c'est ça qui ne va pas dans cette histoire. Et Karim est avec nous au 32-16, il nous appelle du département de l'Aisne. Bonjour Karim.
Oui, bonjour à vous.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Ben, pas mal. Vous trouvez normal qu'ils ne puissent pas se produire, pourquoi?
Alors, je trouve que c'est pas normal qu'il puisse se produire parce que, en fin de compte, nous, la France est un pays des droits de l'homme, etc. Je comprends totalement la liberté d'expression, etc. Tout le monde a son opinion, hein. Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Sauf que Amir, contrairement à ce qu'a dit un des chroniqueurs, a déjà pris position pour l'armée de Tsahal. Et c'est déjà aussi.
Bah, mais pas pour Yadan.
Non, il a fait l'armée.
Il a fait l'armée 3 ans. Oui.
Il a fait l'armée parce qu'il est franco-israélien quand on est.
Non, il a fait 3 ans d'armée.
C'est une obligation. Oui, c'est une obligation.
C'est une obligation mais, et c'est 3 ans.
Mais il a déjà pris position pour cette armée-là. Maintenant, pour moi, au même titre que les Russes ne peuvent pas se produire comme ça dans un État, surtout que nous, on a un grand pays des droits de l'homme, liberté d'expression, etc. Moi, je comprends. Mais à partir du moment où en fait on prend position pour un État aujourd'hui qui ne respecte pas les droits internationaux,
un artiste russe peut se produire en France. Il y a pas d'interdiction pour un artiste russe.
C'est compliqué.
Et moi je trouverais pas ça normal.
Il y a pas d'appel au boycott pour les artistes russes en France. J'ai pas souvenir.
Et moi je trouverais pas ça normal qu'un artiste russe puisse aujourd'hui venir se produire. Bien sûr. Pourquoi? Parce que
Amir n'est pas le porte-parole du gouvernement israélien.
C'est on est d'accord.
C'est l'air dans ce cas-là. Il n'a pas fait de déclaration publique sur le sujet.
Bah dans ce cas-là,
contrairement à Barbara
Bush. Dans ce cas-là, il n'y a pas de joueur de foot iranien aux États-Unis. Vous voyez, ça veut dire que si on étend votre idée, si on pense que les gens de ces pays-là sont responsables de ce qui se passe, on accepte ni de joueurs, ni d'artistes.
Ne sont pas responsables de ce qui se passe, mais ils prennent position. Amir a déjà pris position.
Non.
Maintenant, pour revenir sur l'Iran,
non, en fait, il a pas pris position.
Vous avez vu ce que l'Iran a subi aux États-Unis?
Oui, mais là, on n'est pas sur le même sujet, là.
Ben, ça a été, ça a été,
on n'est pas dans les mêmes gouvernements, on n'est pas.
Ça a été condamné, d'ailleurs.
Oui,
ça a été condamné.
On sacralise toujours le sport, l'art, la culture. On devrait laisser ces gens-là tranquilles. C'est ce qui unit, justement. Si on commence à s'en prendre aux sportifs, à l'art, à la culture, c'est ce qui va nous dire, c'est ce qui va faire créer les différences.
Et vous vous rendez compte quand même, Karim, c'est-à-dire que même si vous êtes en profond désaccord avec l'artiste, que donc là, en fait, on est dans l'intimidation et du coup, on est là en train de baisser les bras face à ça. Il y a un boycott. Alors ok, c'est la liberté d'expression aussi. Il y a un appel au boycott, ok. Mais ça veut dire quand même que on n'est plus du tout dans la liberté quand même. À un moment donné, si on empêche quelqu'un de se produire parce qu'on désapprouve ses opinions réelles ou supposées, mais où va le monde?
Quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, moi, je suis pas d'accord avec lui, mais il dit quelque chose d'intéressant qui est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que moi, je suis pour une liberté, je l'ai dit et je le répète, je suis pour une liberté de se produire totale. Je pense qu'Amir doit pouvoir se produire librement, sans aucune difficulté. Mais du coup, je suis pour que les artistes russes puissent se produire aussi et qu'il n'y ait pas de sanctions. Je suis pour que les artistes iraniens puissent se produire, ou les joueurs de foot iraniens jouent au foot. Je suis pour que Dieudonné puisse faire ses spectacles. C'est-à-dire, on a commencé, en fait, le système a ouvert une boîte de Pandore en visant certains et pas d'autres. Et du coup, c'est une logique qui se retourne contre lui. Et il y a un
Est-ce que
tu as
assisté à un de ces spectacles, là, Dieudonné?
Moi,
j'ai assisté à deux de ces spectacles.
Moi, ça m'intéresse pas, mais je crois qu'il a le droit de les faire.
Moi, j'ai assisté à deux ces spectacles.
Moi, j'ai assisté au dernier, c'était quand même limite.
Eh ben, il a le droit.
Eh ben, franchement, moi, à aucun moment, dans les deux que je suis allé voir, et d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Sandrine, et c'est le nom de son spectacle, qui s'appelle Sandrine. Donc, bon, bref, évidemment, je suis allé le voir, on me l'a offert. Donc, je n'ai pas du tout ressenti de l'antisémitisme durant son spectacle.
Grégoire est avec nous au 32-16. Merci, Karim, d'avoir appelé depuis le département de l'Aisne. Grégoire nous appelle, lui, de Montargis, dans le Loiret. Bonjour, Grégoire.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien,
et vous, que pensez-vous de l'annulation du concert d'Amir?
C'est triste, c'est franchement d'une tristesse absolue. J'ai même pas de mots en fait pour décrire ça, à part que on a pris la DeLorean, on fait un voyage à remonter dans le temps et on revit nos vieux démons. Faut pas oublier que la France, on a eu une petite période d'accalmie après la Seconde Guerre mondiale parce qu'on s'en voulait, mais la France a un historique profondément antisémite. Relisez les thèses de Molière. Déjà à l'époque de Molière, on parlait du sale juif dans la barre. Je veux dire, dans les années 1900, avant la guerre, les juifs, ils étaient traînés dans la boue, c'était la peste en France. Je veux dire, historiquement, le juif en France,
c'est la tradition antisémite en France.
Oui. Non, c'est... Il y a un proverbe juif qui dit heureux comme un juif en France, parce que sur le continent européen, c'était le pays où les juifs étaient le mieux traités, comparé notamment à leur situation dans l'Empire.
Paradoxalement, dans le cimetière des juifs à Jérusalem, la majorité sont français.
Oui. Et je vous rappelle également que parmi tous les pays occupés, c'est en France, le taux de survie des juifs est l'un des plus élevés, avec 75% des juifs.
Mais là, je
suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
L'un n'empêche pas l'autre.
Vous entendez les mots qu'on utilise, on parle de tout sur
Mais pourquoi est-ce que ce taux... Alors, deux choses. Qui est-ce qu'ils ont été tués? Par les Allemands, par les Français. Qui a fait le génocide des Juifs? Les Allemands, pas les Français. Premièrement,
certains Français ont participé. Il n'y a pas des trains qui sont partis de chez nous.
Et deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est l'un des taux de survie les plus élevés? Parce que énormément de Français ont caché clandestinement des Juifs chez eux.
Aussi.
Et je vous renvoie à la vallée des Justes en Israël.
Et maintenant, on va nous vendre quoi? Qu'on était tous des Justes.
qu'on était
non,
tous...
Non, j'ai jamais dit ça. Mais je vous rappelle des faits historiques, factuels et chiffrés.
Sauf que l'État français, le régime de Vichy, a malheureusement... participer
c'est tout à fait
à la
exact,
chasse aux juifs,
mais le général de Gaulle, le général de Gaulle t'expliquerait que l'État français de Vichy n'était pas la France. C'est un satellite illégitime installé par les Allemands.
C'est lui qui avait les manettes.
Et que la France, c'est de Gaulle.
À force de se trouver des excuses, voilà où on en est. À force de dire que nous, on est bien, que chez nous, tout se passe bien pour la communauté.
Non, on n'a pas dit ça.
On met tout ce qu'il faut en place. Non, mais attendez.
N'exagérez pas non plus.
Je vous entends parler, vous me dites que l'électorat des juifs, nous, on les a défendus, on les a cachés. Et vous dites, c'est pas vrai.
Il y a eu les deux, et il y a le taux de survie des juifs le plus élevé dans l'Europe occupée grâce à tous les Français qui ont caché des juifs. Bon, même si il y en a qui ont été 1945. Arrêtés.
Les
Allemands.
Oui, d'accord, Jean-Loup, mais c'est quand même dans un pays comme la France où deux artistes juifs, coup sur coup, ne peuvent pas se produire. Et ça, c'est en 2026.
Donc, bravo, merci.
Oui, non, mais je t'ai dit que je soutenais Amir et que j'étais pour la liberté des conservateurs.
Vous inquiétez pas, je suis avec vous. Il n'y a pas de souci. On peut discuter, on peut s'écharper, on peut même avoir des opinions qui se rejoignent.
Merci Grégoire de respecter le débat, c'est bien, merci.
Bon Grégoire, et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut aussi qu'on soit plus ferme et qu'on soutienne ces artistes, qu'on les aime ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas le problème, parce que moi ce qui me chagrine, c'est que ce sont les boycotteurs qui gagnent finalement avec ces deux artistes. Finalement, ni Butch ni Amir peuvent se produire, voilà, l'histoire elle se termine comme ça.
Mais toujours pour le principe de précaution.
Exactement.
Toujours principe de précaution, voilà.
Est-ce qu'à un moment, on va remettre les pieds sur terre et arrêter de mettre de la politique dans l'art, arrêter de mettre de la politique dans le sport, arrêter de mettre de la politique dans tout.
L'art, c'est de la politique aussi, mais bon.
Ouais, si on veut
tout à fait d'accord avec vous.
Ce que je veux dire, c'est que l'art, c'est de la politique. Est-ce que la politique a sa place dans un concert? Est-ce que la politique a sa place à la Coupe du Monde de football? Il y a un moment. Et c'est pareil,
ça me choque pas qu'un artiste fasse de la politique. Oui. C'est la liberté d'expression. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'artiste, même si il y a des artistes qui sont très engagés, et pourquoi pas, c'est très bien.
Mais il y a des grandes stars américaines qui critiquent Trump de matin jusqu'au soir.
Bien sûr.
Et pourtant, il n'y a pas d'appel au boycott. Ils font leur concert.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous.
La politique et la chasse aux juifs, c'est deux trucs différents. On peut faire de la politique, il n'y a pas de souci. On peut donner son opinion et de politique, il n'y a pas de souci. Mais là, on est en train de parler que ça dérive sur l'antisémitisme. L'histoire ne sert à rien. Notre contemporanisme, il sert à rien. On n'est pas foutu de se rappeler ce qui se passait il y a 5 jours. Alors, ce qui se passait il y a 80 ans, on est à la masse. Il y a un moment, il faut se dire, on est tous devenus tellement cons, faut arrêter. Voilà,
merci Grégoire.
Merci pour cette franchise.
Merci d'avoir appelé au 32-16. Alice est avec nous, mais pour une autre raison. Bonjour Alice.
Bonjour.
Parce que Alice, elle va aller au parc Astérix.
Génial.
Bravo Alice. Et pas seule Alice, puisque c'est un séjour de 2 jours pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants.
Génial, merci beaucoup.
Vous savez avec qui vous allez?
Oui, mon mari et ma fille.
Ben voilà, mais il reste encore une place.
Mais j'arrive, je viens, Alice.
Bon, il y a Sandrine Dion qui vient alors.
Moi, je suis fan des parcs d'attractions.
Alors, vous aurez une nuit d'hôtel sur place et vous allez vous régaler. Il y a 50 attractions, des spectacles. Bref, le parc Astérix, c'est un des plus beaux parcs français. Bravo à vous.
Super, merci beaucoup.
Bon séjour.
Gagnez votre séjour au parc Astérix sur RMC et célébrez l'été gaulois. Du 11 juillet au 30 août, profitez de soirées jusqu'à 22h et d'un tout nouveau spectacle de drones.
Dans un instant, un sujet qui va intéresser notre ami restaurateur Donfleur, puisqu'on va parler des pourboires numériques au moment de payer. Ça, c'est devenu maintenant la mode. Mais même parfois une obligation. Est-ce qu'on ne force pas un peu la main avec ces pourboires numériques? On va vous poser la question et poser la question GG dans un instant sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
RMC 11h25, RMC Story pour ceux qui regardent la télé. N'hésitez pas à nous appeler parce qu'on finira l'émission par vos témoignages à propos des incendies monstres en Gironde et du côté des Landes à Biscarrosse, avec notamment cet ordre d'évacuation qui a été donné aux habitants de la presqu'île de Lèche-Cap-Ferré. Il y a beaucoup de touristes sur place qui sont partis par voiture ou par bateau pour fuir l'arrivée des flammes. Appelez-nous si vous avez été parmi ces gens. Il y a eu plus de 40 000 personnes évacuées. 42 000 maintenant. Eh ben, racontez-nous voilà, comment vous avez vécu la situation. Alors, je vois, il y a des témoignages, des gens qui disent oui, mais bon, l'incendie n'est pas encore là, pourquoi on évacue tout de suite? Alors, l'idée, c'était des évacuations préventives, c'est pour éviter l'anarchie. Si tout d'un coup, tout le monde fuit au même moment, ben, on essaie d'organiser les choses, même si c'est compliqué, les embouteillages monstres. Bref, on attend vos appels au 32-16. Avec Jean-Loup Bonamy, Sandrine Pégan, Zoran Spasojevic, on va aller au restaurant, peut-être celui d'Honfleur, le tien, Zoran, pour voir, pour essayer de comprendre pourquoi maintenant le pourboire numérique est devenu la norme, avec un peu l'impression qu'on nous force la main à chaque fois à laisser quelque chose. C'est vrai qu'au moment de payer, on tend la machine avec la carte et on te demande de verser 5, 10 ou 20% de pourboire. Si tu appuies sur non, t'as le serveur qui te regarde et tu te dis aïe aïe aïe, tu culpabilises et t'as l'impression d'être un radinos. C'est vrai que, alors que pourboire, en fait, avant, tu laissais quelques pièces à discrétion là sur la table et le serveur n'était pas forcément là à ce moment-là. Donc il y avait un geste plus spontané. C'est vraiment une bonne chose pour boire numérique, Zoran?
Pour être tout à fait honnête, j'ai jamais eu affaire à ça. Nous, on le pratique pas.
Ah, tu l'as pas mis?
Non, je sais même pas comment ça marche.
Mais ça va devenir une obligation, je suis sûr.
Tu
vois très bien ce que
c'est. C'est une application sur une carte bleue.
C'est sur ton terminal.
C'est le terminal.
C'est le terminal.
Oui, mais le terminal, il le configure. Parce que moi, mes terminaux de carte bleue, il n'y a pas cette...
Ah, il faut le configurer, j'imagine.
Parce qu'il est à l'ancienne.
Ouais, je suis à l'ancienne.
T'as l'ancienne génération.
Je pense que nous, on le pratique pas, donc vous pouvez vous renseigner.
Donc c'est pour boire à l'ancienne.
Je pense que ça dénature aussi le. Je pense que ça va dénaturer le travail du serveur. Parce que si on force le client, ça va dénaturer un peu le principe même du service. Parce que si on est bon, on en a du pourboire. Mmh. Moi, je vois dans mes équipes, ils se font du pourboire parce qu'ils sont accueillis.
Il y a encore des pourboires?
Ah oui, il y en a. Oui, il y en a parce qu'ils sont bons et puis parce qu'ils font bien leur boulot parce que
même si le service est compris qu'on paye.
Ouais, le service est compris. Oui.
Donc c'est
Et c'est ce qui différencie avec les pays de beaucoup de pays. Aux États-Unis, par exemple, le service n'est pas compris. Les serveurs ne vivent essentiellement que de ça.
Le tip est obligatoire.
Maintenant, ils ont instauré un minimum dans différents États. À New York, que je connais un peu, ils ont instauré un minimum. Donc, mais maintenant, aux États-Unis, c'est 15% minimum. Et souvent, ils l'appliquent directement. C'est-à-dire, ils vous demandent même pas. Vous savez, avant, vous cochiez les cases. 10%, 20%, 15%.
Maintenant, c'est ce qu'on nous propose avec le terminal où il y a marqué.
Je trouve que ça colle pas à notre mentalité. Je pense que ça peut mettre des gens dans l'embarras qui vont pas souvent au resto et qui vont se retrouver du coup avec l'idée d'être un peu radin s'ils ne peuvent pas.
Ouais,
il y a des gens qui
ne
peuvent pas laisser pourboire.
Un peu forcé à donner.
Mais ils contribuent déjà à l'activité économique en venant déjeuner ou dîner, donc en plus, c'est déjà pas mal.
Faut pas faire fuir les clients, quoi.
Bah, c'est ça. Et faut pas faire passer les clients pour des radins. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens pour qui c'est dur. Il y a des gens pour qui c'est un sacrifice d'aller au resto. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis à mes équipes, on ne connaît pas les gens qu'on sert. Oui. Donc, il faut les servir.
Parfois,
bien.
C'est le seul resto dans l'année pour un événement. Parfois,
peut-être qu'ils sont à découvert. Peut-être qu'ils ont des problèmes d'argent. Peut-être qu'ils ont des problèmes d'impôts. Peut-être. Donc, non, je pense, je suis.
Toi, t'as un TPE comme celui-ci, là,
à l'ancienne.
On voit sur RMC.
Pour être sincère, je ne sais même pas comment ça marche.
Alors, Sandrine, toi, est-ce que tu laisses des pourboires
Moi, je suis pour le pourboire, mais je suis contre la culpabilisation.
Oui, c'est ça.
Parce que franchement, la reconnaissance, pour moi, ça ne se force pas. Et je sais de quoi je parle. J'ai été serveuse pendant 10 ans pour payer mes études. Ouais. Donc, je sais que le pourboire, ça fait plaisir. Mais en fait, tu transformes ce geste spontané en une espèce d'obligation morale. Ouais. Et quand l'addition, elle est quand même à 300 €. Ouais. Et qu'on te demande 10, 15 ou 20% de pourboire, ça fait quand même 30 € de pourboire sur ta propre participation à toi. Ouais. Donc bon, je trouve que c'est ça qui me dérange. Maintenant, par rapport aux États-Unis, j'ai peur parce que je pars aux États-Unis là début août. Je sens que je vais douiller au niveau des additions. Si en plus tu dis que maintenant c'est obligatoire.
Il y a le pourboire. Il y a d'abord une taxe.
Ouais.
Puis après il y a le pourboire. Mais ça vous êtes pas loin de doubler votre addition des fois dans certains lieux.
Je crois que tu vois, j'avais déjà prévu le truc parce que je pars en business à l'aller, mais je rentre en éco.
Parce que
je savais que je l'ai payé en 3 fois sans frais mon billet. Hein. Moi, je suis une femme à crédit et comme ça au moins je lisse. Mais tu vois, c'est pour te dire que j'avais déjà prévu que j'allais être pauvre en revenant parce qu'avec tous les pourboires qu'on va devoir laisser, ça fait un peu mal. Mais
donc
voilà.
Toi, t'es pas tellement pour parce que on a l'impression d'être forcé quoi. En fait, le pourboire, ça doit être un geste spontané.
Voilà, c'est de la reconnaissance. C'est pour remercier le serveur et attends, excuse-moi, mais si il a été insupportable il a tiré la tête pendant tout le repas et que
on doit culpabiliser
de lui réclamer à chaque fois les plats etc ou de l'eau ou quoi que ce soit, bon c'est bon.
Jean-Loup,
Ah, mais je découvre cette pratique à l'instant. Et
simplement, je te voyais bien radin, c'est pour ça.
Qu'est-ce qui se passe quand on paye en liquide? Parce qu'en fait, le pourboire, c'est souvent comme ça.
Ah, bah oui.
C'est tu payes.
Non, mais là, on peut le prendre sur la carte bleue.
Voilà, tu payes soit par carte, soit en liquide, et tu laisses un pourboire en liquide.
Tu sais pourquoi ils ont mis le pourboire numérique? Parce que les gens ont de moins en moins de pièces et d'espèces sur eux.
Il y a une guerre au liquide, c'est terrible.
Comme il n'y a plus de liquide, enfin, les gens ont moins d'espèces. Donc, voilà, donc tu ne laisses pas de pourboire. Peut-être d'ailleurs, dans ces restaurants, on laisse moins de pourboire qu'avant. Et donc, ils se sont dit.
Alors, grâce à ta carte, plusieurs choses. Moi, je vois deux choses. La première, c'est que c'est quand même une forme d'américanisation de la société française. C'est la culture du tip, et c'est comme ça que les serveurs se rémunèrent aux États-Unis.
Chez nous, le service est
voilà. Sauf que chez nous, comme souvent, c'est exactement comme les primaires pour les élections. C'est l'américanisation servile, mais mal comprise, mal intégrée, parce que chez nous, normalement, le service est compris et il y a un pourboire en liquide.
Il a existé un certain temps, service non compris.
Bien sûr.
Ça a été instauré.
Bien sûr. Mais là, c'est pas le cas, donc c'est une forme d'américanisation et d'américanisation mal comprise. Et deuxièmement, justement, à propos d'américanisation, moi je trouve que ça évoque beaucoup, justement, il y a un dessin animé aux États-Unis qui s'appelle South Park, et dedans il y a un épisode où il y a un personnage qui fait ses courses, et à la fin, le serveur lui dit est-ce que vous voulez faire un don pour les enfants qui meurent de faim en Afrique? Et le personnage répond non, je donne déjà beaucoup. Et là, on lui dit appuyez sur le. Et le
ah oui, c'est ce qu'on fait maintenant, ouais.
Voilà, la personne, l'employé prend le micro et dit bien fort à tout le magasin: alors monsieur, appuyez sur le bouton rouge sur lequel écrit j'en ai rien à faire des enfants qui meurent de faim en Afrique et je les méprise. Voilà, c'est exactement ça. C'est une stratégie de la culpabilisation qui est un peu déplaisante.
Jérémy est avec nous, nous appelle de Dordogne. Bonjour Jérémy.
Bonjour les GG, comment ça va?
Très bien.
Bonjour.
Vous êtes propriétaire d'un food truck, c'est ça?
Ouais, tout à fait, exactement.
Donc vous bossez dans la restauration. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, ces pourboires numériques?
Alors, moi aujourd'hui j'ai un food truck, mais ça fait que 5 ans que j'habite en Dordogne. Avant j'étais sur Paris et j'ai travaillé donc dans la restauration, essentiellement en salle, dans des grosses brasseries, des institutions type le Flore, ce genre de choses pour ne citer que qu'elles. Et c'est vrai que quand on est sur Paris, avec la clientèle internationale plus la clientèle parisienne, a quand même vachement on a quand même la culture du pourboire. C'est vrai que maintenant, moi, j'habite ici en Dordogne et les gens ont beaucoup, beaucoup moins ce côté de l'aide du pourboire. Et il y a un autre problème qui a été soulevé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les gens, moi, je connais des gens qui sont retraités, ils ont que leur iPhone pour payer. C'est-à-dire que le jour où ils se retrouvent en cale de batterie, ils n'ont plus rien pour payer. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bien parce que les gens, ils pensent pas spécialement. Et quand on a passé un bon moment au resto, c'est quand même bien de se dire, là on dit, ah tiens, vous voulez laisser un pourboire, ah franchement le mec il a été cool, il nous a bien servi, il a été sympa, bon allez, on lui met un petit quelque chose. Et c'est vrai que la restauration, c'est un métier qui est en tension, où on galère à recruter, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est contraignant, donc et qui est pas très bien payé, hein. Donc c'est vrai que les pourboires, enfin moi quand j'étais sur Paris, c'est ça qui faisait que je gagnais bien ma vie et que j'étais très motivé à aller travailler parce qu'on savait que.
Et c'est vrai qu'on n'a plus d'argent liquide sur soi.
Voilà.
Aussi.
Et donc ça réduit les pourboires des serveurs. Parce qu'avant, exactement, les gens payaient en liquide et ils laissaient le surplus, les pièces.
Il y a beaucoup de clients qui disent, au moment de payer, de rajouter sur la carte bleue. Sans ces pratiques-là.
Mais ils laissaient les pièces du surplus en pourboire au serveur et ils laissaient l'arrondi au serveur.
Il y a beaucoup de clients qui
arrondissent. Maintenant, comme tu payes par carte bleue,
tu peux très bien laisser l'arrondi. Par exemple, si ton repas t'a coûté 28 euros, tu peux dire, prenez 30 euros.
Ouais. Oui, mais c'est moins simple, moins spontané, il faut le dire.
Oui, mais ça doit le pourboire doit rester un choix.
Mais la réduction du paiement en liquide, c'est faite au détriment des pourboires des serveurs.
Non, mais Jérémy,
les serveurs touchent moins de pourboires depuis que les gens payent en liquide.
Si le pourboire est imposé, on a l'impression que c'est un supplément qui est déguisé.
Mais c'est pas du tout imposé, c'est le fait qu'on le propose.
Pardonnez-moi, quand il y a le serveur qui vous tend le TPE et qui vous regarde et que vous avez le malheur d'appuyer sur le petit bouton, il y a marqué non, aucun pourboire, je peux vous assurer qu'on se sent vraiment vite en pression.
Ça gâche un peu le moment.
Avec le volume
on a l'impression que c'est un supplément déguisé.
Le volume de clients fait que les gens, ils n'ont pas envie de. Enfin, je veux dire, on ne va pas se prendre la tête à se focaliser toute la journée en disant elle m'a rien lâché, lui, il n'a pas
lâché. Oui, c'est naturel.
C'est désagréable pour le client sur le moment.
Le client ne vit pas un bon moment et c'est la fin du repas et il y a un petit coup de pression, le client. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose.
J'ai une de mes filles qui travaille au Grand Hôtel du Louvre, au restaurant, et ils ont cette application. J'en ai parlé hier soir avec elle, mais ils ne l'utilisent pas.
Ah bon?
Ça reste quand même. Il y a une. Ça fait une pudeur aussi.
Tu peux la désactiver sur le TPE?
Il ne le propose pas.
Merci Jérémy. Moi, je peux te dire un truc. En tant que client, si je vais, au restaurant et que je suis content du service, je vais laisser un pourboire sous forme, par exemple, de pièces de monnaie. Ouais. Voilà, mais je vais laisser un pourboire. Mais si jamais le gars ou la fille a le malheur de venir avec son TPE, là, tu peux être sûr que je ne lui donnerai rien pour le punir de cette mauvaise pratique.
Là, parce
que ça m'aura inspiré pour œil, son égard. Non, mais c'est vrai. Alors que j'aurais donné un pourboire sans ça.
Frédéric est avec nous, elle travaille dans l'hôtellerie. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à tous.
Du côté de la Seine-sur-Mer, dans le Var. Est-ce que ce pourboire numérique, c'est forcer la main du client?
Alors, c'est pour le coup, pour moi, un débat très compliqué parce que c'est pas forcé dans le sens où la technologie évolue aujourd'hui. Oui. Donc, effectivement, les gens ont de moins en moins d'espèces. C'est juste notre façon de voir les choses qui est pas correcte. On parlait des États-Unis tout à l'heure. On prend l'exemple d'un serveur américain. Ouais. Son salaire, son taux horaire est très faible. Mmh. Il va être payé peut-être que 5, 6, 7 euros de l'heure. Et son salaire, il va le faire en construisant avec ses pourboires. Donc, c'est pas la culture que nous on a.
Il est payé par les pourboires.
Oui. Il est payé par les pourboires. Exactement. Alors que nous, en France, si je bascule sur le même exemple d'un serveur type, il a son salaire à taux plein. Et nous, en France, les pourboires, c'est à la bonne volonté du client. Ouais. Et c'est juste après, c'est un état d'esprit. Moi, dans mon établissement, on n'a pas ce service du TPE. Donc, c'est à la discrétion du client de nous laisser en cash ou en carte. Et en carte, s'ils veulent, ils nous disent, est-ce que vous pouvez rajouter tant, vous partagez pour l'équipe, vous le rajoutez sur ma note.
Mais et est-ce qu'ils sont généreux alors, vos clients?
C'est aléatoire. Honnêtement, c'est très aléatoire. Il y a des bonnes journées comme des mauvaises journées. Comme nous, on peut aller à la crêperie du coin, laisser 10 euros ou les 50 centimes. Après, il faut pas voir le TPE, le pourboire sur TPE, comme quelque chose de forcé. Oui. C'est juste le fait, comme on disait, les retraités qui aujourd'hui ne payent qu'avec leur AFON. C'est un fait. Donc, c'est accessible maintenant de plusieurs façons différentes en France. C'est à nous de pas le voir comme quelque chose de forcé. Mais ça va être quand même aux professionnels. Ben, s'ils veulent un pourboire, si le professionnel veut un pourboire, il fait son travail correctement. Si après, il a pas fait un travail correct et qu'il a pas de pourboire, ben, c'est son problème. C'est à lui d'améliorer son attitude. Donc, c'est notre état d'esprit. Là, c'est compliqué. C'est un débat pour moi assez complexe par rapport à notre façon de vivre, par rapport à l'État français. Il faut le voir différemment.
Donc on doit changer notre mindset.
Le pouvoir numérique est comme une évolution par rapport au fait que très peu de gens maintenant ont du liquide sur eux. Je suis celle qui n'a jamais d'espèces sur elle.
Oui,
et combien
sûr.
De fois je me suis retrouvée à mince. Et quand j'ai habité aux États-Unis pendant plus de presque 15 ans. Et quand je suis rentrée en France, j'avais le réflexe de vouloir laisser un pourboire par TPE. Et je dis mince, je peux pas le récompenser de son travail parce que j'ai pas d'espèces. Donc pour moi c'est nous notre état d'esprit qui est un peu.
J'ai bien compris, Frédéric.
Voilà.
Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir appelé au 32-16 depuis la Seine-sur-Mer dans le Var, consultation sur le compte X des GG. On vous a posé la question sur ces pourboires numériques au moment de payer le restaurant. Est-ce qu'on nous force la main?
Ben oui.
Et vous dites oui quand même à 89,6%.
Nous ne sommes pas fous.
10,4%, donc ça passe pas très bien auprès des clients de la restauration. On va finir cette émission dans un instant par vos témoignages, revenir sur ces incendies. Il y a Laurent Nunez qui précise que 10 000 hectares ont brûlé en Gironde. Le Cap Ferret est menacé. On a évacué 35 000 personnes en deux jours. Il y a aussi l'incendie de Biscarrosse dans les Landes. C'est dantesque ce qui se passe sur place. Ça rappelle les grands incendies de 2022 où plus de 30 000 hectares avaient brûlé du côté de la Thèse du Buch. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on est là au sud du bassin d'Arcachon. Là, c'est plutôt au nord que ça se passe avec la presqu'île du Cap Ferret. Témoignez si vous avez été obligé d'évacuer cette nuit ou ce matin très tôt. À tout de suite sur RMC, RMC Story, le 32.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
One, two, three, four. 11h45, la suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Sandrine Pégan, Jean-Loup Bonamy et Zoran Spasojevic, le restaurateur Donfleur.
Tu le maîtrises à merveille ce nom.
T'as vu, hein. Ça va, tout se passe bien Zoran?
Tout va bien.
Bon, parfait. Malheureusement, ça se passe moins bien en Gironde et dans les Landes avec ces deux gros incendies qui ne sont toujours pas fixés. 35 000 personnes évacuées depuis deux jours, notamment du côté de la presqu'île du Cap Ferret. Et Laurent Nunez a fait un point très récemment.
Actuellement en cours, on a 32 feux, hein, faut l'avoir en tête, on a 32 feux en cours, qui n'ont évidemment pas tous la même importance. Ce que je peux dire, c'est qu'à date, là, au moment où on se parle, on a dépassé un seuil un peu, enfin, sur le seuil des 50 000 hectares qui ont été brûlés depuis le 1er janvier de cette année. Hein. Donc, si vous prenez la référence par rapport à l'an passé, c'est quasiment x3, hein, un hectare brûlé à la même période l'an passé, donc en 2025.
Voilà, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui faisait un point global sur tous les incendies en ce moment et sur ces terres qui ont déjà brûlé depuis le début de l'année. Stéphane est avec nous. Stéphane, sa maison a brûlé. Il l'a vu ce matin dans la commune de Lèche-Cap-Ferret. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Olivier.
Merci d'être avec nous. Elle était située où, votre maison, précisément? C'est parce que c'est une grande commune, c'est très étendu, le Lèche-Cap-Ferret.
On était sur la sortie de Lège, sur la départementale qui va sur le Porche.
D'accord. Mais vous l'avez vu, votre maison brûler?
Non, non. En fait, hier soir, je suis resté jusqu'à minuit à éteindre les flammèches qui reprenaient avec le vent. Les pompiers avaient réussi à les protéger, à protéger les deux maisons, mon voisin et moi. Et ce matin, en fait, quand je suis venu, le feu était repassé, les vents avaient tourné, et la maison était un tas de cendres.
Il reste plus rien.
Mon Dieu.
Il reste plus rien.
Vous habitiez là depuis longtemps?
25 ans.
Ah oui. Ah oui.
Mon Dieu.
Et donc, comment vous faites, là, Stéphane? Vous allez où?
Mais là, en fait, on s'en va chez ma fille sur Biganos. Elle a demandé à sa voisine qui avait un appartement de libre, qui était en vente, de nous passer les clés. Et puis, on s'en va avec ma belle-sœur. Alors, le truc, c'est que c'est un peu le convoi un peu exceptionnel parce que j'ai quatre chiens. Et donc, du coup, on a chargé, mais on avait chargé il y a deux jours... quelques valises sans savoir quoi prendre. Et puis voilà.
Et vous savez, vous allez pouvoir vous loger pendant quelques jours?
Eh bien, dans cet appartement vide, provisoirement. Et puis après, on va voir au niveau des assurances. Et puis tout ce qui est question de relogement, parce que a priori, on en a, à mon avis, au moins, je pense, une dizaine de jours avant que ça se calme sur la presqu'île. Donc ouais. En fait, tout le monde est un peu en système D, là.
Bah oui, tout le monde se débrouille. Puis alors surtout, faire évacuer autant de monde sur cette presqu'île, ça a créé des embouteillages monstres.
Ouais. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'embouteillage parce qu'ils ont fait ça par zone sur l'évacuation d'Arez.
D'accord.
Donc là, on est parti sur la première zone, donc ça roule.
Parce que je peux vous dire que ça coince. Moi, j'ai eu des témoignages, ça coince derrière. Il y a des gens alors, d'ailleurs qui ont laissé la voiture, qui ont pris les bateaux pour repartir
oui.
sur Arcachon.
Alors ceux qui étaient carrément sur la pointe du Cap Ferret, ils préféraient vraiment partir par voie maritime.
Ouais, ouais.
Mais après, je pense que ce qui a manqué pour nous, je pense que ce sont les avions et les Canadair. On les a pas eu depuis le début. Hein.
Ah bon?
C'est ça qui a manqué, parce que je pense que ça aurait pu contenir le feu. On avait simplement les Dash qui mettent du retardant et ça n'a pas suffi en fait. Le feu a pris trop d'ampleur.
Pourtant, les Canadair ont été utilisés au départ du côté de Somos.
Juste au départ du côté de Somos. Et après, je ne sais pas où ils sont partis. Nous, on les a jamais vus, les Canadair.
Bah, ils sont peut-être partis sur Biscarrosse parce qu'il y a un feu au sud d'Arcachon, on va du bassin à Biscarrosse. Et peut-être que les Canadair sont là-bas.
Hein. Bah, le feu de Biscarrosse, il a démarré depuis hier. Nous, ça fait déjà...
Oui, je sais. Déjà,
ouais. Mais nous, on n'a eu que les Dash. Les Dash, franchement, bon, ça retarde, mais ça n'éteint pas le feu.
Non, c'est sûr. Bah, bon courage à vous, Stéphane.
Ah oui. Ouais. Vraiment, de tout cœur avec vous, Stéphane.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Jonathan, il nous appelle de Tours. Bonjour Jonathan.
Oui, bonjour.
Alors vous aussi, vous êtes alors du côté de Tours, il y a aussi un incendie?
Non, pas de Tours. Moi, je suis en vacances là.
Ah bon, d'accord. Ah oui, d'accord.
J'habite à Tours.
Parce que sur l'affiche, il y a marqué Tours. Je me dis, il y a un feu à Tours. Non, oui, vous êtes où? À Biscarrosse.
À Biscarrosse. Et du coup, on s'est fait évacuer cette nuit à 3h.
Ah oui, d'accord. Oh là
là. Parce que le camping était au bord des flammes. Enfin, on était à moins de, on voyait les flammes en sortant du parking, on voyait les flammes.
Mais vous avez dû avoir peur, non?
Oui, après il y avait les enfants, donc il faut garder le sang-froid, mais oui.
Ouais. Et vous
c'est impressionnant.
Vous êtes en vacances depuis quand, Jonathan, sur place?
On est arrivé dimanche.
Et vous avez vu justement les Canadairs, vous avez vu
les Canadairs, nous on est au niveau du lac de Biscarros là, et il y a deux Canadairs qui ont tourné quasiment toute l'après-midi hier.
Et donc c'est fini les vacances ?
Ouais, vous.
Bah justement, on sait pas, du coup le relogement, le Biscarros est toujours fermé, donc on peut pas y retourner. L'agence de location, enfin le camping, ne répond pas aux questions, ne savent pas.
Ah bon.
Et donc c'est soit ils nous ont dit vous pouvez rentrer chez vous, par contre ça c'est possible, mais par contre le relogement c'est impossible.
Donc vous êtes rentré chez vous ?
Bah pour l'instant on attend. Ma compagne voudrait rentrer, mais on n'a pas dormi la nuit, donc je pense que c'est pas très prudent.
Ouais.
Je pense qu'il faudrait mieux passer la journée là, prendre
trouver. Parce que le feu pour l'instant de Biscarros n'est pas fixé encore, donc c'est pas terminé. Bah,
apparemment oui, mais on n'a aucune info, personne n'a d'info ici, personne ne sait. C'est très compliqué à comprendre, à savoir.
C'est la première fois que vous vivez ça ?
Ah oui, complètement. Ouais. Mon fils m'a demandé s'il avait déjà connu, je fais non, pas du tout, et puis une fois ça suffit.
Ouais, j'imagine.
Et l'odeur, tout ça, il y a quelque chose de particulier ? Nous qui n'avons pas vécu ça, est-ce que c'est...
Il y a l'odeur, il y a les cendres. Enfin, du coup, on voyait les cendres aussi, des fumées tomber sur nous à certains moments, par rapport à la direction du vent. Et oui, l'odeur, les flammes, le ciel rouge, c'est très, très impressionnant, oui. On sent les flammes, et du coup, parti, on a traversé une grande base militaire... au niveau des Biscarros jusqu'à Mimizan, ils nous ont ouvert les portes, on a coupé à travers, et il y avait une grosse fumée noire pendant un moment sur la base et on voyait plus rien. C'était très impressionnant. Ouais.
C'est aussi un drame.
Zoran.
C'est aussi un drame pour les. Alors bien sûr, à l'échelle de valeur, c'est moins important que perdre sa maison ou perdre la vie.
Oui.
Mais c'est aussi un drame commercial. Hein. Ils vont souffrir de la saison. Hein.
Les campings, les hôtels, tout ça.
Là, le dernier mois d'août,
je peux pas m'empêcher de penser à mes confrères là-bas. Je pense que et les prochaines années, ça va impacter quand même les gens et ils vont réfléchir à y aller dans les régions. Ouais. Quand on entend ces témoignages,
peut-être que l'État sortira son chèque.
Et c'est pareil, ça a reculé aussi avant-hier à ce niveau-là.
Ouais, et puis on se souvient de 2022, mais après
les assurances aussi.
Il y a aucune région épargnée aujourd'hui par ces incendies, donc si tu veux partir quelque part, tu vois, c'est compliqué.
Bah oui, c'est à pile ou face. Ouais.
Ça va être parce que si tu m'aimes.
La Normandie.
La Normandie, ouais.
La Bretagne.
La Bretagne, il y a eu des feux, il y a eu des incendies dans le Morbihan.
Même le Canada est touché.
Ouais, voilà.
Et d'ailleurs, c'est quand même là aussi le cercle vicieux, parce que rien que les incendies qu'il y a au Canada là, qui s'inscrivent dans la même logique, ils émettent à eux seuls ces incendies autant de CO2 que l'ensemble du trafic aérien dans le monde entier sur un an. Donc, en fait, c'est les méga-feux comme ceux du Canada émettent également du CO2 qui favorise le réchauffement climatique, qui à son tour favorise les incendies. Ouais. Donc,
alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même stratégie que nous. Nous, en France, on a la stratégie dès que le feu se déclare, on l'éteint. Alors qu'en France, en Canada, il laisse brûler parce qu'il y a moins d'habitations, il y a moins de dangers.
Ouais, c'est beaucoup plus vaste comme pays. Et beaucoup moins densément peuplé. Voilà. Il y a beaucoup de vide, en fait.
Exactement.
En France, tu ne peux pas te permettre de faire ça.
Bah non, surtout là, on parle de Biscarros, la presqu'île du Cap Ferret, les habitations, il y a des campings et autres. Sam est avec nous. Merci, Jonathan, pour ce témoignage. Sam, et puis bon courage à vous. J'espère quand même que ces vacances se termineront bien. Sam, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans le département de l'Aude à Castelnaudary.
Un taxi.
Oui.
Vous êtes taxi, vous. Alors, vous avez aidé, justement, en tant que taxi, les gens à évacuer hier à côté de Biscarros, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, on est monté dans une commune qui s'appelle Ichou, qui n'est pas très loin de Biscarros. De base, on devait aller manger tranquille. Et puis, il parlait à la télé, tout ça, des feux et tout ça. Et du coup, on voyait plein de gens, en fait, qui voulaient partir parce que, déjà, on voyait les fumées, les flammes, et ça se voyait assez loin. Et on a eu des appels de collègues, en fait, qui cherchaient des taxis. Et comme moi, j'ai habité dans cette région, et en fait, il y avait plein de taxis qui sont quand même venus aider de façon gracieuse.
Bravo, Sam.
Bravo à vous.
Bravo à vous. On va s'arrêter là je me fais engueuler le chrono, j'ai dépassé le chrono, Sam. Mais bravo à vous, il y a la solidarité et on en a besoin des solidarités. On a beaucoup de solidarité, notamment dans l'accueil, dans les salles de fête, etc. Merci à tous, mes chères grandes gueules. Le meilleur des celles de midi sur RMC, vos programmes sur RMC Story. Passez un très, très bon week-end.
C'est les vacances.
Bon week-end pour certains. Allez.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.